Chapitre 6. Les orties. Thérèse, le lendemain de la partie à Saint-Cloud, se disait « Il faut absolument que je sache à quoi j'en suis à tous égards, en moi-même d'abord. » Le fond de soi-même, peut-on le voir, quand des émotions bouillonnent continuellement à la surface, la troublent de leurs vagues et de leurs remous. La sensibilité s'y agite, pareille à une algue tourmentée dont les racines ne s'aperçoivent pas. Pourquoi, au moment d'entrer dans l'étroit et long bureau, Thérèse s'arrêtait-elle une seconde, comme pour se préparer à un choc? S'il n'était pas là, à son pupitre, tournant vers elle son visage aux grands traits irréguliers, au menton lourd, à l'honnête regard gris un peu triste, au sourire légèrement oblique et moqueur, qui décortiquait si bien les fausses apparences et les poses, s'il n'était pas là, l'univers se vidait, la journée n'avait plus ni intérêt ni but. S'il était là, une sorte d'hallucination dressait à côté de lui l'image de Pierre Coombe, tellement plus fin et rassé, et il fallait cette comparaison pour que Thérèse devinât ce qu'elle n'avait jamais entrevu dans la réalité, c'est que Pierre Coombe était un aristocrate de naissance. Ses dédains et ses ignorances, sa tranquille ironie, aussi bien que son aisance à se mouvoir partout, à parler à chacun selon le protocole, avec la nuance obligatoire, fixée depuis toujours par les distinctions de classe, dessinait le contour d'un contraste parfait avec Marc Maujon. Thérèse, en esprit, se réfugiait à l'ombre protectrice et intelligente d'un homme plus simple, plus droit que Pierre Coombe, un compagnon de vie auquel on pourrait se donner dans cette confiance absolue qui est la base solide d'un durable amour. Il était là, mais un des associés de la maison l'entretenait. Thérèse fila vers sa grotte, ouvrit son portefeuille, étala ses papiers. Sur le plateau de lac où elle tenait ses plumes, elle aperçut une petite carte dressée. Rien que la vue de l'écriture lui donna un coup au cœur. Un coup heureux, de vague émoi qui espérait quelque chose. Elle lut « Invitation à dîner, jeudi, chez le magicien des rayons, vous, Louise Breslau, et votre serviteur. Pouvez-vous ?» La veille, lui et elle s'étaient presque querellés. Il n'en restait rien ce matin, pas plus que d'un nuage dont personne ne se souviendra. Comme c'était bon de se sentir libre de toute arrière-pensée et aussi de toute appréhension. Ni le magicien des rayons, ni Louise Breslau ne savaient grand-chose de Thérèse. Pour eux, elle sortait toute fraîche de l'inconnu. Et Marc Maujon n'en savait pas beaucoup plus long. Trois fois, le glissement vers l'aveu avait failli les précipiter dans l'irréparable. Quand elle avait dit « un caractère impossible », quand elle avait dit « si vous demandiez à la jeune fille de vous raconter son histoire », quand elle avait dit « veuve ou divorcée », c'était la crainte d'une catastrophe qui les avait retenus l'un et l'autre sur l'extrême bord de la confession. Ah, si Thérèse avait pu tout simplement croire à la générosité et à la compréhension de l'homme qu'elle aimait! Mais son âme malheureuse était, depuis l'abandon, rongée de défiance et ne trouvait quelque sécurité que dans la précaire certitude « Personne, sauf Galimard, ne sait rien de ce qui m'est arrivé ». Pour le magicien des rayons, pour Louise Breslau, elle ne serait qu'une jeune personne assez gauche et peu causeuse, et surtout, pareille aux peuples heureux qui n'ont pas d'histoire. Thérèse entr'ouvrit la porte de sa grotte, vit que son chef était seul et qu'il ne travaillait pas. « Je dis, c'est entendu, merci, » fit-elle à demi-voix. « C'est bien un peu intimidant, un savant, une grande artiste. » « Pourquoi intimidant ? » fit-il assez sévère. « Il faudrait avoir une bien petite nature pour ne se sentir à l'aise qu'avec des inférieurs. »« Vous avez raison, comme toujours, » murmura-t-elle. Marc Maujon se leva, s'approcha de la grotte, mais sans y entrer. « Vous est-il venu une idée pour votre bois ? » demanda-t-il. « Il m'en est venu plus de 10. Pensez, des enfants qui tressent des couronnes, on peut fabriquer toutes sortes de petits contes là-dessus. Il faudra que je me décide. Un peu vite, si possible. » Ces propos ne paraissaient pas les intéresser beaucoup, ni l'un ni l'autre. Thérèse restait debout, en deçà du seuil, lui, de l'autre côté. À la fin, il dit « Savez-vous que nous nous entendons assez bien, malgré tout ?»« Malgré quoi ? fit-elle d'une voix qui trembla un peu. « Malgré vos coquetteries, malgré le sire tête de lion. »« Vous y revenez ? » s'écria-t-elle subitement en colère. « Non, non, je vous taquine. »« Malgré quoi, alors ?»« Je ne sais trop, vous mettez une barrière à certains moments. Vous coupez net. »« C'est plutôt vous !» murmura-t-elle involontairement. « Moi, vraiment, je vous fais cet effet ? Eh bien, j'admets qu'il y a aussi une barrière de mon côté. Si je vous disais en quoi elle consiste, feriez-vous la même chose pour ce qui vous concerne ?» Singulière conversation, tous deux debout, n'osant s'avancer l'un vers l'autre, osant à peine se regarder. Lui, indécis et timoré, elle, épouvantée devant la perspective de tout dire. Prenait-il l'élan nécessaire pour se jeter à l'eau ? Mais elle, immobile, les doigts crispés d'énervement, devait-elle le retenir ou le pousser ? Marc Mongeon toussa un peu pour s'éclaircir la voix. « Auparavant, je ne faisais pas de projet. J'allais au jour le jour, assez agréablement d'ailleurs. La vie a bien des côtés amusants. Allons, aidez-moi un peu. Demandez-moi pourquoi je ne faisais pas de projet. Ne soyez pas si discrète. Pourquoi ne faisiez-vous pas de projet ? Questionna-t-elle docilement, mais la gorge sèche et serrée. « Parce que, c'est bête à dire, j'ai une défectuosité cardiaque de famille. Mon père et deux de mes oncles en sont morts subitement. Vous devez comprendre que c'est un obstacle aux projets d'avenir, par exemple, et surtout, à des projets de mariage. Ma révélation n'a pas l'air ? Non, vous n'avez pas l'air frappé de la foudre. » « Je le savais déjà, » fit Thérèse honnêtement. « Votre cousine me l'avait dit. »« Ah bien, vous étiez préparée. Et alors, votre conclusion ?»«
Mais je n'ai pas à conclure, »
balbutia-t-elle éperdue, ne sachant comment s'évader. Cette fois, il fallait jouer quitte ou double. « Ce serait votre tour, » persista Marc Mongeon. « Depuis que je vous connais, vous faites du mystère, des réticences, des allusions à de méchantes personnes qui vous ont gâté le caractère. Vous avez été malheureuse et sans le sou à Londres, ce qui peut arriver à chacun. Si vous me racontiez tout ça une bonne fois, en détail, vous n'avez pas à confesser un crime, voyons. » Il la regardait d'un air scrutateur qui devenait anxieux, puis mécontent. « Il faudrait que je réfléchisse encore un peu, » fit-elle d'une voix à peine intelligible. « Ne vous fâchez pas. » Il haussa les épaules, il s'en retourna à son pupitre et fit semblant de se mettre à écrire. Tenait-il Thérèse pour une faiseuse d'embarras, une mystérieuse à propos de rien ? Louise Breslow ne se trouva pas dans le petit train de banlieue qui, le jeudi soir vers 6 heures, emmenait Thérèse sous l'égide de Marc Mongeon. La grande artiste, un peu distraite, avait sans doute manqué le départ, elle prendrait le train suivant. Tout en montant le joli chemin ombragé qui zigzaguait au flanc de la colline, Marc Mongeon expliquait à Thérèse l'ermitage et l'ermite, ni vieux ni redoutable comme elle se le représentait. L'ermitage, une maison basse et fleurie sur sa terrasse de rose, ou peut-être, dans les parfums du soir, errait l'ombre aimable d'une belle dame qu'il avait habitée au beau temps du Second Empire. L'ermite, un garçon charmant, assez enjôleur, pas du tout ce genre qui suinte les chiffres et les formules. « J'aime bien votre robe bleue, par parenthèse, » poursuivit Marc. Thérèse ne put s'empêcher de rire. « Ça n'a pas l'air de s'enchaîner, mais je vois pourtant le rapport. Vous n'aurez pas honte de présenter la rustique helvétienne. » Mais votre ermite, puisqu'il est assez mondain et averti, verra tout de suite que ce foulard bleu et la façon des manches datent de l'été dernier. Moi, en tout cas, je ne m'en serais pas douté. J'aime ce bleu doux et les petites couronnes de marguerites blanches qui y sont semées. C'est si parfaitement jeune fille. Thérèse se détourna, feignant d'avoir accroché à un buisson son léger manteau de soie, le manteau qu'elle portait pour son voyage de noces. Fallait-il donc à chaque instant, une épine aiguë vint lui rappeler qu'elle vivait dans l'équivoque du mensonge tacite et précaire ? L'accueil cordial aurait mis à l'aise une provinciale, même plus gauche que Thérèse, qui s'enhardit à dire, au bout d'un quart d'heure, à son hôte empressé : « Jamais je ne vous aurais pris pour un savant. » La table avec quatre couverts était mise sur la terrasse. On attendit un peu. Louise Breslow ne paraissait point. « Commençons toujours, elle biffera les hors-d'œuvre, dit l'ermite M. Aurel. On fit bien de commencer, puis de continuer et de finir le dîner, car, nous anticipons, M. Aurel reçut le lendemain ce billet qui figure certainement dans sa collection d'autographes. « Excusez-moi d'avoir complètement oublié le rendez-vous d'hier. J'ai la tête pleine de couleurs à l'huile. Louise Breslow. » Précieuse signature, mais oubli bien fâcheux, qui causa de gros ennuis à Thérèse par la suite. Après le dîner, comme la douce cendre du soir tombait sur la terrasse, les lampes minuscules des verres luisants apparurent ici et là dans le gazon. M. Aurel les voyait vertes, Marc Maujon les voyait bleues. Tout à coup, l'hôte à la jolie barbe blonde et pointue s'écria « Ce n'est rien ici, mademoiselle le maire. Descendez avec moi sur la seconde terrasse. Les roses y sont pleines de verres luisants. Et puis, vous verrez au loin les lumières de Paris. » Marc Maujon n'étant pas invité, resta sur sa chaise. Au bout de 5 minutes, Thérèse reparaissait, secouant sa main avec véhémence, et M. Aurel, l'air penaud, remontait derrière elle les marches du petit escalier. « Il fallait me dire que c'est plein d'orties dans ce fouillis. Ah, votre jardin est bien tenu pour le jardin d'un ermite. Regardez ma main, elle est déjà toute enflée. »